Vous êtes à l'écoute de RFI, il est maintenant 19h30, vous êtes au cœur de RFI Soir. Tout de suite, ce sont les dessous de l'Infox, c'est avec vous Olivier Four, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Les dessous de l'Infox sur RFI. Olivier Four.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans les dessous de l'Infox. La voix de l'Amérique va-t-elle être réduite au silence ou récupérée par des médias complotistes proches de la sphère Trump? La diffusion de la radio VOA est suspendue depuis la mi-mars. Des contrats qui pourraient se terminer à la fin du mois. Inquiétude des salariés et des collaborateurs de Voice of America à travers le monde et témoignages dans cette édition. La diplomatie publique américaine et les médias émettant à l'étranger Donald Trump veut en faire des outils de propagande au service d'une idéologie ultra-conservatrice, une dérive autoritaire au détriment de la liberté d'informer, nous dira notre invitée Maud Kessar, directrice de recherche à l'IRSEM à Paris. La désinformation au cœur des tensions indo-pakistanaises au Cachemire. Après les raids indiens de la semaine dernière, les infox se répandent sur les réseaux sociaux. Rumeurs et trucages sophistiqués dont viendra nous parler Grégory Genévrier de la cellule InfoVérif de RFI. L'administration Trump a donc décidé de démanteler une institution, VOA, Voice of America, émettée dans le monde entier depuis des décennies, jusqu'à ce que Donald Trump demande, mi-mars, à ses employés de rentrer chez eux, officiellement par mesure d'économie. Attaque brutale contre l'audiovisuel extérieur des États-Unis, mais aussi contre les médias publics sur le sol américain, avec un nouveau décret début mai visant à supprimer les subventions fédérales accordées à la NPR, la radio publique nationale, jugée trop orientée à gauche. C'est bien la liberté de la presse et la lutte contre la désinformation qui sont visées aux États-Unis comme à l'étranger. Pour évoquer cette prise en main idéologique des médias publics américains par les ultra-conservateurs, nous avons rencontré Maud Kessar, directrice du domaine Europe-Espace-Transatlantique-Russie à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM à Paris. Elle est aussi spécialiste de la diplomatie publique des États-Unis. Elle revient tout d'abord sur les origines de Voice of America.
Alors, Voice of America est créé pendant la Seconde Guerre mondiale et l'objectif premier, c'est d'avoir une radio publique américaine qui puisse lutter contre l'appareil de propagande nazi, donc après 1941. Et cette voix de l'Amérique va ensuite prendre un regain d'intérêt après la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la guerre froide, où la voix de l'Amérique parle depuis Berlin, notamment, et va devenir finalement la voix du monde libre dans un certain nombre de territoires occupés par l'Union soviétique. Donc, la voix de l'Amérique est la voix du monde libre derrière, au-delà du rideau de fer. Radio Free Europe et Radio Liberty sont créées après VOA, au moment de la guerre froide, et elles sont d'abord financées des années 50 jusqu'en 1967 par la CIA, et elles ont pour but, pour Radio Free Europe, d'émettre à destination des pays du glacis soviétique, essentiellement des pays du bloc de l'Est, et pour Radio Liberty, à destination de la Russie. Et ces deux radios émettent depuis Berlin-Ouest, et leur particularité, c'est qu'elles donnent la parole aux dissidents, à ceux qui sont sans voix, privés de voix de l'autre côté, sous le joug autoritaire. Et donc, cela veut dire les opposants politiques et puis aussi un certain nombre de dissidents qui sont réfugiés à l'Ouest et qui essaient de documenter et de parler de ce qui se passe de l'autre côté du rideau de fer.
On va parler de la reprise en main par l'administration Trump, mais si on regarde les dernières années, il y a le conflit en Ukraine, les interventions américaines au Moyen-Orient, en Afghanistan. Qu'est-ce qui reste de tout ça aujourd'hui?
Alors, ces radios, Radio Free Europe et Radio Liberty ont effectivement repris beaucoup d'activités depuis février 2022 et donc depuis le conflit en Ukraine, puisqu'on a vu qu'elles ne faisaient pas aussi que de l'audio, mais un certain nombre d'images, puisque dans les premières images qu'on a du conflit en Ukraine, bien celles-ci viennent ou sont tournées par les journalistes de Radio Free Europe et Radio Liberty, qui sont particulièrement sensibilisés finalement à l'histoire de ce conflit et qui alimentent là encore, donc résurgence de la guerre froide, ce qu'on a pu penser être le monde libre entre 2022 et 2024. Aujourd'hui, il faut rappeler en fait que cette VOA et Radio Free Europe, Radio Liberty font partie d'un plus large consortium qui s'appelle USAGM et qui est donc le consortium qui regroupe l'ensemble des médias d'État américains qui émettent dans les pays du monde entier, pas seulement en Europe, en Afrique ou en Amérique latine, mais aussi beaucoup en Asie. Et ils ont donc aussi la possibilité de financer des journalistes locaux. C'est le cas en Afrique, c'est le cas en Amérique latine, c'est le cas en Asie, qui sont souvent en fait des journalistes qui travaillent pour maintenir un certain pluralisme. Et donc lutter contre la parole officielle dans des régimes autocratiques. Et c'est très important de le rappeler parce que c'était certainement dans l'ADN de ces radios. Mais aujourd'hui, effectivement, l'ensemble de l'appareil de USAGM, de VOA, de RFE et de RL est depuis donc mars 2025 mis en péril. Ils ont été mis en péril par un décret présidentiel qui avait pour visée donc de démanteler l'appareil des médias d'État américains qui diffusent à l'étranger. Et cela pour des raisons idéologiques.
Alors voilà, en fait, l'administration Trump nous dit ces médias diffusent des fausses informations. Ces médias ne vont pas dans notre sens, donc je vais m'en débarrasser, c'est ça ?
C'est un petit peu ça. Il y a deux choses. C'est qu'on observe avec Trump et Musk une purge de l'appareil d'État. Le premier argument, c'est de se dire on démantèle ces médias d'État parce qu'ils font finalement, ils nous coûtent trop cher, ce qui est un argument tout à fait fallacieux parce que les dépenses pour ces médias d'État se comptent en millions de dollars et pas en milliards. Donc au regard du budget de la défense américain, par exemple, qu'on veut porter à plus de 900 milliards quand on est à 77 millions pour les médias d'État américains, on comprend bien que ce n'est pas ça qui va renflouer les caisses de l'État fédéral. Donc ça, on élimine cet argument. Ensuite, il y a le projet idéologique et le fait de vouloir se dire, nous, on a peut-être une mission civilisationnelle, un projet idéologique que l'on veut porter au-delà des frontières des États-Unis. Et pour ce faire, on a besoin aussi d'un relais et d'un relais de propagande. Or, la propagande, ça n'est pas dans l'ADN de VOA, de RFE et de RL. Elles n'ont pas été créées pour ça. Et c'est pour ça que les dirigeants de VOA et de Radio Free Europe et Radio Liberty se sont opposés très fermement donc, aux velléités de l'administration Trump d'avoir la main mise sur ces médias d'État et qu'ils font plus que s'y opposer. Ils ont engagé des recours en justice pour annuler en fait les décisions qui ont été prises par l'administration Trump et pour pouvoir recouvrer en fait leur pleine identité qui est celle de promouvoir le pluralisme, la liberté de la presse à l'étranger et non pas d'être à la solde d'un pouvoir qui aurait des dérives autoritaires. C'est à cela qu'on est en train d'assister aux États-Unis, un pouvoir qui tente à avoir des dérives autoritaires, qui veut mettre la main sur des médias d'État qui seraient un appareil de propagande et pas un appareil de promotion de la liberté de la presse.
Oui, parce que si on regarde bien l'histoire, c'est pas la première fois que les USA connaissent une alternance politique et on a toujours vu finalement des candidats que l'on pourrait qualifier d'opposés ou d'antagonistes se succéder dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Ce qui change fondamentalement aujourd'hui et les conséquences sur ces médias, c'est quoi ?
C'est que dans une alternance politique précédente, d'abord, les Républicains ne se sont jamais attaqués aux médias publics à destination de l'étranger. En plus, ces médias d'État sont financés par le Congrès. Donc c'est le Congrès qui doit donner son accord ou pas pour le financement de ces médias. Leur ligne éditoriale doit être autonome et donc c'est une liberté de la presse indépendante. Et donc l'enjeu ici, c'est celui de la liberté de la presse aux États-Unis, pas simplement à destination de l'étranger, mais aussi à destination du territoire national. Donc on comprend bien qu'ici, la question ne se pose pas d'une alternance politique, mais plutôt d'une politisation de l'appareil d'État à la solde d'un appareil d'État qui serait celui d'un régime autoritaire, je le redis.
Donc c'est pour ça que vous parliez de trahison, terme qu'on retrouve peut-être aussi dans la bouche des salariés qui ont décidé de résister. Alors il y a un bras de fer qui a lieu depuis quelques semaines avec des décisions de justice. Rien n'est encore réglé. Selon vous, ça peut déboucher sur quoi ?
Alors ça peut peut-être déboucher sur au moins une forme de résistance en fait d'une partie de la population américaine qui peut être sensibilisée. Alors elle ne sera pas sensibilisée par les journalistes des médias d'État américains qui sont moins connus du grand public américain puisque leur vocation c'est plutôt de soutenir la liberté de la presse à l'étranger. Toutefois, le fait qu'il y ait des actions en justice qui soient menées, qui soient soutenues par des organisations de la société civile américaine américaines qui soutiennent la liberté de la presse aux États-Unis et à l'étranger, créer un mouvement un petit peu donc de sensibilisation dans l'ensemble des médias américains, de la presse, pas seulement des médias d'État qui publient ou font des émissions à destination de l'étranger, et donc entamer une forme de résistance. L'intérêt aussi, c'est que dans ce mouvement de mobilisation, il y a une mobilisation aussi des hommes et des femmes politiques au Congrès qui doivent maintenir leurs prérogatives en tant que législateurs sur ce type d'activité. Donc c'est plus un débat à la fois, débat public plutôt côte-est quand même aux États-Unis et au sein de l'appareil institutionnel, essentiellement au Congrès, qui peut s'organiser sur cette question.
Dernière nouvelle, cette annonce absolument surréaliste, qui consisterait à nourrir les antennes de VOA avec des contenus provenant de One American News Network aux États-Unis. OAN, c'est connu pour être l'un des principaux soutiens à Trump, c'est connu aussi pour diffuser des théories complotistes.
Alors là, on a un conflit d'intérêts qui est quand même assez marqué. Le fait que le mouvement de Trump, ça soit d'utiliser des contenus complotistes et de ses soutiens pour alimenter un média qu'il verrait comme étant à lui ou à sa solde en tant que dirigeant autoritaire, ça n'est pas une surprise. Par contre, ce qui ne paraît pas faisable, c'est que le Congrès puisse laisser utiliser un appareil de médias publics qui serait confisqué par le pouvoir exécutif. Et donc là, on comprend bien qu'il y a cette lutte institutionnelle entre le législatif et l'exécutif. Donc si Trump voulait pousser à faire cela, et bien à ce moment-là, ça serait encore une dérive plus importante de son pouvoir super présidentiel, puisqu'on est bien dans une présidence impériale, qui voudrait étendre ses prérogatives au-delà encore de ce qui lui est permis institutionnellement, c'est-à-dire de s'arroger en fait la possibilité d'utiliser un média public à la solde de sa propre parole personnelle et de celle de ses supporters politiques, fussent-ils d'ailleurs nationalistes, ultranationalistes, MAGA ou complotistes, puisqu'aujourd'hui on voit bien que les utilisateurs de Trump Fake News ou de Truth Social sont effectivement issus de ces milieux-là. Et il faut rappeler aussi que Trump a pu réussir cela déjà avec Fox News qui reprend en fait les fils d'actualité et l'ensemble des contenus qui peuvent donc être véhiculés sur Truth Social ou sur d'autres plateformes qui sont pro-Trump.
Alors, vous parlez de cette fameuse magasphère, ces nombreux comptes d'influenceurs pro-Trump. Alors, on les voit à présent travailler, pas main dans la main avec les Russes, mais soutenir des comptes proches de la propagande du Kremlin.
Absolument, mais ça, c'est pas une nouveauté, je dirais, parce que, alors, on le voit davantage avec les podcasteurs qui occupent maintenant des postes de pouvoir, et on pense notamment aussi aux rôles qui ont été donnés au sein même du FBI à des personnalités qui étaient plutôt connues des podcasts pro-Trump que finalement pour leurs compétences pour diriger des services importants. Et puis, il y a des grandes agences qui ont été complètement démantelées. Et parmi elles, il y a la FMIC, la Foreign Malign Interference Center, qui est donc plus qu'une agence, un centre, et qui avait pour vocation de coordonner le renseignement et les actions du département d'État pour démanteler et dénoncer, attribuer les actions d'ingérence étrangère, notamment en provenance de la Russie, et parmi ces ingérences, bien sûr, les activités de désinformation en particulier. Il y a eu un petit peu avant la prise de fonction de Donald Trump, le démantèlement aussi du Global Engagement Center, qui a eu au département d'État, et qui avait pour vocation également de dénoncer et d'attribuer les campagnes de désinformation. Donc tout cet appareil-là, il a été démantelé de semaine en semaine, de jour en jour aussi par Trump. Donc on en arrive à de tels projets. C'est finalement assez cohérent. On a un certain nombre d'influenceurs comme Jackson Hinkle, dont on parle plus ou moins, en fait, on en parle, et qui a beaucoup d'abonnés et qui surtout reprend depuis longtemps la propagande russe d'une part, de même qu'il était un soutien, il s'est revendiqué comme un soutien de Bachar el-Assad, ce qui est très intéressant pendant un moment. Et puis, il a été aussi un soutien de Benjamin Netanyahou aussi à un autre moment. Donc, en fait, il faut aussi comprendre que l'ensemble de ces influenceurs, d'abord, ont pour objectif de rendre rentable leur propre modèle économique avant de vouloir diffuser une idéologie pro-Trump ou nationaliste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont prêts à diffuser tout et n'importe quoi, y compris la propagande du Kremlin. Pourquoi pas ? Pas tant parce qu'ils y adhèrent, mais parce que cette propagande-là, elle est assez bien faite pour eux, pour que, en fait, leur plateforme soit utilisée et qu'ils puissent puisse générer du revenu. Et ça, c'est très important à comprendre pour comprendre la mobilisation qu'il peut y avoir de certains influenceurs autour donc, de ces messages qui finalement ont des bons clients.
Trump n'est pas un agent des Russes, mais son camp reprend les méthodes russes et les améliore d'une certaine manière. Et il peut compter sur un soutien de poids, jusqu'à quand ? Celui du milliardaire Elon Musk, le patron de X. On parlait tout à l'heure de 1942, d'émissions de radio. Aujourd'hui, on a une offre informationnelle qui est beaucoup, beaucoup plus large, beaucoup plus fragmentée et très présente sur les réseaux sociaux. Donc avoir comme soutien Elon Musk et le réseau X, ça reste quelque chose de très important.
Oui, ça reste important et tout ça a été orchestré en fait d'assez longue date. Pour Trump, ça n'est pas quelque chose d'original ou d'inattendu puisque il se voit comme un grand communicant. Il a tout de suite compris l'intérêt des réseaux sociaux pour être plus proche de la population américaine. Il voulait sa propre plateforme, il utilise Truth. Et le fait d'avoir Musk en soutien, c'est une plateforme supplémentaire, mais ce n'est pas la seule. X n'est pas la seule plateforme des magas. Telegram est très utile. Vous parliez des liens entre la propagande russe ou le Kremlin et les États-Unis. Regardons ce qui se passe sur Telegram, qui passe parfois un petit peu plus en dessous des radars des débats grand public. C'est extrêmement intéressant. Musk est en soutien de Trump toujours pour l'instant. Il le restera via X. Il va peut-être pas rester non plus dans son administration trop longtemps, puisque Trump lui a gentiment dit qu'il allait sans doute retourner s'occuper de ses voitures. Donc ce soutien-là, il n'est pas complètement gratifiant toujours pour Musk. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des autres barons de la tech, pas seulement Musk, puissent continuer à soutenir Trump et donc à occuper le champ informationnel de manière très large et très précise aussi quand il s'agit d'utiliser des plateformes qui ont pour visée de promouvoir l'idéologie MAGA et de cibler plus finement à l'extérieur des États-Unis, donc que ce soit en Amérique latine, en Afrique ou en Europe, des populations cibles grâce à ces plateformes, donc en les alimentant avec des messages comme ceux que les podcasteurs pro-Trump peuvent promouvoir par ailleurs. Et donc ces messages sont repris par ces différentes plateformes qui ont des visées ou larges ou plus ciblées en fonction donc du fait qu'on veuille viser plutôt la jeunesse, la ménagère de plus de 40 ans ou bien des populations aussi plus âgés parfois.
La fin de la modération sur X, on en a beaucoup parlé, on se rend bien compte que ça risque de changer les choses en Europe aussi. Les fact-checkers sont devenus des cibles. Est-ce que la fin de la modération, c'est une possible porte ouverte à la multiplication de médias dits de réinformation, de médias dits alternatifs, mais qui en fait sont des médias de désinformation, qui se multiplieraient, viendraient à pulluler au détriment des médias traditionnels?
Alors, je pense qu'on est déjà dans ce moment-là. Et peut-être le point d'espoir ou positif que l'on pourrait voir, c'est que si on a trop de... On a des médias médias sociaux qui pullulent avec beaucoup plus de désinformation, comme vous le notiez, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des acteurs qu'on avait bannis. Hein, pour être clair et donner un exemple, on sait très bien qu'après 2021 et les événements du Capitole en particulier, beaucoup d'acteurs complotistes et ultranationalistes blancs ont été bannis du réseau X pour incitation à la haine. Et là, même aux États-Unis, vous pouviez être banni d'un réseau social alors qu'on pense qu'il n'y a pas de limite à la liberté d'opinion. Donc c'est très intéressant. L'ensemble de ces acteurs qui avaient été déplatformés sont revenus nourrir et alimenter les discours de haine sur le réseau social X, mais ils sont aussi présents sur plein d'autres plateformes. Donc elles existent déjà, ces plateformes. Mais ce que ça produit comme effet pour l'instant, c'est une saturation de l'espace informationnel. Donc on voit bien que la réaction aussi dans un certain nombre de démocraties pluralistes, c'est de plutôt avoir un mouvement ou une tendance à vouloir quitter ces plateformes où il n'y a plus d'espace pour s'exprimer librement sans être invectivé, mais de s'exprimer dans des espaces qui soient plus démocratiques et plus régulés, oui. Donc c'est pour ça que nous, Européens, on a toujours un rôle à jouer et un effet de levier important sur les plateformes américaines et sur les acteurs de la Big Tech en voulant brandir l'arme du DSA, du Digital Service Act, et en essayant aussi de l'améliorer en travaillant de concert avec nos partenaires européens. Ça n'est pas une petite arme ou un petit levier, parce qu'on a bien compris que c'est ça qui pouvait faire trembler un peu les géants de la tech, et c'est aussi une fenêtre d'opportunité pour nous, Européens, pour se réapproprier des médias qui seraient des médias d'expression libre, pluraliste et tout en tenant compte d'un certain nombre de règles de droit ou de normes, la même que contournent à la fois l'administration américaine actuelle, les partisans de la Big Tech et tous les acteurs de la haine en ligne.
Et les fact-checkers que nous sommes, doivent-ils déserter le réseau X ou rester sur ce réseau puisque c'est là qu'il faudra porter la contradiction vis-à-vis d'un public qui peut être acquis à certaines thèses circulant sur ce réseau d'Elon Musk?
Alors, bien sûr, c'est important toujours d'avoir un certain nombre de relais d'opposition et de fact-checkers, ça on en est sûr, mais toutes les études montrent que, en fait, la difficulté, c'est que dans ces espaces qui sont des espaces donc de haine et d'invective, la parole du fact-checker sera immédiatement donc remise en cause, et puis surtout les utilisateurs qui suivent et qui croient dans ces messages qui sont véhiculés, notamment sur le réseau social X, ne vont pas aller voir ce qui est produit ou proposé par les fact-checkers. Donc, le travail des fact-checkers, il est très important aussi dans d'autres plateformes que X, celles que j'évoquais. Ça peut être Blue Sky, mais on peut développer Blue Sky et on peut lui donner les moyens. Une fois qu'on a dit ça, au-delà des fact-checkers, c'est les utilisateurs eux-mêmes qui sont finalement les acteurs de cette réinformation. Et ça, c'est une prise de conscience de l'ensemble des citoyens qui appartiennent encore au monde libre et aux démocraties pluralistes, de se dire, nous, on veut garder ces médias libres, on veut garder cette possibilité d'avoir finalement une offre informationnelle large et pas d'être simplement dans la croyance, dans la bulle de filtre et sans doute dans une balkanisation des opinions qui forcément a une incidence véritable, qui est une influence dans le monde réel, dans le débat public, dans le monde politique et dans des actions concrètes. Donc ce n'est pas simplement une prise de conscience des fact-checkers, mais c'est aussi une prise de conscience des utilisateurs et des citoyens qui doivent être sensibilisés à ces phénomènes importants de désinformation, puisque comme vous le rappeliez, on a l'impression que dans ces espaces, c'est la désinformation qui est la règle, plus que l'information elle-même.
Entretien réalisé cette semaine à l'IRSEM, au sein de l'école militaire à Paris. À présent, sur le terrain, comment s'organisent les équipes qui travaillent pour VOA pour faire face à cette tentative de mise au pas par l'exécutif américain? Nous avons réussi à joindre à Dakar, au Sénégal, un collaborateur de VOA Africa. Il s'appelle Wahani Johnson Sambou. Il travaillait régulièrement pour la chaîne depuis 2 ans. Et il y a 3 mois, il a commencé à sentir le vent tourner, moins de piges, puis la fermeture temporaire du siège à Washington, terminer les commandes. En attendant des jours meilleurs, alors il le dit clairement, jusqu'alors il n'avait pas du tout l'impression de travailler pour un organe d'influence à la solde du pouvoir américain, mais bien pour une radio pluraliste dont le sérieux est reconnu dans le monde entier.
L'équilibre de l'information, c'est sacré à VOA. Parce que généralement, on se dit que bon, on travaille pour Voice of America, c'est une radio du département d'État américain. Forcément, il a cette influence de vouloir montrer un visage reluisant des États-Unis. Mais non, là, quand il s'agit de traiter des questions politiques, forcément, il faut avoir des gens qui sont pour et des gens qui sont contre pour équilibrer. À l'approche de l'élection présidentielle américaine, par exemple, j'ai travaillé sur un sujet où j'ai pu interroger des Américains qui résident à Dakar. Et la règle, c'était de ne pas donner l'impression que ce reportage était pro ou contre un quelconque candidat parmi les deux, Kamala Harris et Donald Trump. J'ai vraiment adoré travailler avec eux. Il y a ce côté humain qui manque parfois quand on travaille avec des gens qu'on ne voit pas tous les jours. Et même là, avec la fermeture de la boîte, de temps en temps, ils m'envoient des messages. Wahani, comment ça va? Comment tu te débrouilles actuellement à Dakar? Et vous imaginez ce que ça fait de ne plus avoir toutes ces commandes, ce que ça fait point de vue revenu.
C'est un énorme manque à gagner pour vous.
Effectivement, parce que je pourrais dire que 60 à 70% de mes gains mensuels provenaient de VOA. On suit l'actualité. Eux aussi, ils attendent de voir ce que cela va donner. Et soit ça confirme que la boîte va fermer définitivement, ou bien la justice va demander à ce que le président américain puisse revenir sur sa décision.
Voilà, témoignage d'un collaborateur de la chaîne VOA Africa qui attend de savoir ce qu'il va devenir. Voice of America, c'est 1400 postes permanents et contractuels et le plan Trump viserait à se débarrasser de 90% des effectifs. Beaucoup risquent de perdre leur emploi, mais surtout certains journalistes risquent d'être victimes de pression, de harcèlement, voire de se retrouver tout simplement jetés en prison pour avoir incarné une voix libre dans des pays aux régimes autoritaires.
Les dessous de l'Infox sur RFI.
Les dessous de l'Infox, la chronique à présent, focus cette semaine sur les tensions entre l'Inde et le Pakistan. Après une escalade militaire ayant provoqué la mort de plus de 70 personnes, les deux voisins ont convenu d'un cessez-le-feu, c'était samedi dernier. Mais si les armes se sont tues, eh bien la guerre de l'information, elle se poursuit entre New Delhi et Islamabad. Bonsoir Grégory Genevrier.
Bonsoir Olivier.
D'un côté comme de l'autre, les comptes de propagande continuent de diffuser massivement de fausses informations. Le but, présenter son pays comme le vainqueur de cette confrontation, Grégory.
Oui, à l'instant où le cessez-le-feu aérien, terrestre et maritime a été annoncé, la bataille numérique entre l'Inde et le Pakistan n'a pas baissé en intensité, bien au contraire. Les comptes de propagande ont rapidement réorienté leur narratif autour de deux axes, la glorification de l'action de leur armée et l'humiliation de l'adversaire. Pour y parvenir, tous les modes opératoires sont employés, du simple montage photo au deepfake sophistiqué.
Et de nombreux politiques indiens et pakistanais en ont fait les frais.
À commencer par le premier ministre indien Narendra Modi, dans une vidéo d'une minute et 13 secondes, on pense l'entendre présenter ses excuses au peuple indien.
Pakistan ne hame sampuran roop se nesto nabood kar diya hai.
Le Pakistan nous a complètement détruits, nous avons essayé de faire la guerre, mais nous avons commis une grave erreur, je présente mes excuses. Fin de citation.
Sauf que Narendra Modi n'a jamais tenu ses propos.
Eh bien non, cette vidéo a été générée via l'intelligence artificielle. L'analyse visuelle et les détecteurs d'IA que nous avons utilisés le confirment, c'est un deepfake, un hyper trucage audio et visuel. La voix du Premier ministre indien a été fabriquée de toutes pièces, tout comme le mouvement de ses lèvres. À noter que le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur indien ont également été ciblés par ce type de deepfake.
Et côté pakistanais, c'est le porte-parole de l'armée qui en a été victime.
Oui, une vidéo artificielle du général Ahmed Chaudhry a semé le trouble sur les réseaux sociaux. On croit l'entendre reconnaître la perte de deux avions Chengdu JF-17.
We regret to confirm that two JF-17 aircraft were lost during active duty.
Sauf qu'une nouvelle fois, eh bien c'est faux. Le clip original provient d'une conférence de presse de l'armée pakistanaise tenue le 27 décembre 2024, soit bien avant l'escalade militaire avec l'Inde. Quelqu'un a fourni ces images à une IA pour manipuler le discours du porte-parole de l'armée.
Une infox qui reflète la guerre des chiffres qui se joue en ce moment entre les deux pays, Grégory.
Oui, exactement. Chaque camp publie des bilans de destruction matérielle et humaine infligés à l'adversaire. Des données impossibles à vérifier de façon indépendante à ce stade. Mais pour donner de la crédibilité à ces chiffres, la propagande pro-pakistanaise détourne l'identité de plusieurs médias occidentaux. Une infographie avec le logo de CNN affirme par exemple que l'Inde aurait notamment perdu 6 avions de combat, 553 drones et un système de défense anti-aérien S-400. Sauf qu'en réalité, le média américain n'a jamais publié ce tableau comparatif. Enfin, dans la même veine, un article à la gloire de l'armée de l'air pakistanaise et attribué au Daily Telegraph circule ces derniers jours. Mais là encore, c'est une fausse information.
Merci beaucoup, Grégory Genevrier de la cellule Info Vérif de RFI. Les dessous de l'Infox, c'est terminé pour cette semaine. Merci à la documentation écrite de RFI qui m'a donné des pistes pour préparer cette émission. Merci à Claude Battista qui était à la réalisation. Vendredi prochain, c'est Romain Ozoui qui vous présentera l'émission. En attendant, vous pouvez retrouver les dessous de l'Infox avec les liens utiles sur le site internet de RFI ou en tapant Info Vérif RFI sur un moteur de recherche. Pour l'heure, je vous laisse avec Philippe Le Caplain.
Merci Olivier Four, c'était donc les dessous de l'Infox sur Radio France Internationale. Dans 32 minutes, si on veut être très précis, ce sera Afrique Soir. Ce sera avec vous, Zéphirin Quadio. Au sommaire, le retour, un retour sur l'arrestation, c'était ce matin, N'Djamena, de l'ancien Premier ministre Succès Masra.
Oui, le procureur évoque des appels à la haine que le président du parti Les Transformateurs aurait lancé. Selon le procureur, les enquêtes ont révélé son implication dans les attaques du 14 mai, attaques qui avaient coûté la vie à 40 personne. Nous entendrons la réaction des transformateurs.
Le président déchu Ali Bongo, sa femme Sylvia et leur fils Nourdine ont quitté le Gabon.
Ils sont arrivés la nuit dernière en Angola. Sylvia et Nourdine, emprisonnés depuis le coup d'État et inculpés de détournement de fonds publics, venaient d'être assignés à résidence. Le procureur parle d'une liberté provisoire dans l'attente de leur procès. Nous irons aussi en République démocratique du Congo où la conférence épiscopale nationale appelle à un forum national. Nous parlerons aussi de la la découverte d'une fosse commune au Mali. Une vingtaine de personnes décapitées. Ces personnes avaient été arrêtées lundi dernier. À retenir enfin notre rendez-vous au Festival de Cannes dans le sud de la France.
Avec plus de précision sur le programme, ce que vous nous serez écouté concernant le cinéma.
Bien sûr, nous serons en direct avec Guillaume Thibault, l'un de nos envoyés spéciaux sur la croisette.
Ce sera donc au sommaire d'Afrique Soir sur Radio France Internationale. Dans 30 secondes, un nouveau jour.